LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Tandis que j'étais dans le froid des approches de la mort, je regardais, comme pour la dernière fois, les êtres, profondément. Au contact mortel de ce regard de glace, tout ce qui n'était pas essentiel disparut. Cependant, je les fouillais, voulant retenir d'eux quelque chose que même la mort ne put desserrer. Ils s'amenuisèrent et se trouvèrent enfin réduits à une sorte d'alphabet, mais à un alphabet qui eût pu servir dans l'autre monde, dans n'importe quel monde. Par là, je me soulageais de la peur qu'on ne m'arrachât tout entier l'univers où j'avais vécu. Raffermi par cette prise, je la contemplais, invaincue. Quand le sang, avec la satisfaction revenant dans mes artérioles et mes veines, lentement, je regrimpais le versant ouvert de la vie. Alphabet, Henri Michaud.
Des vivants jusqu'à la mort. Une série documentaire d'Émilie Chaudet réalisée par Cécile Lafont. Quatrième épisode, une trace pour les vivants.
Jamais plus je ne serai la même personne, vous pensez. La vie quotidienne s'est brusquement arrêtée à la lisière d'une journée noire et délétère, à un instant du temps, la déclaration de sa maladie. Nulle épidémie n'y sort jetée, mais des troubles malins et des attaques, dégradations physiques contre lesquelles on ne peut rien. Vous êtes pris, arrimé à ce funeste soir. Vous ne savez pas combien de temps il vous maintiendra hors du monde. Loin de vos amis, voisins, collègues, loin des êtres qui vous entourent mais qui, malgré leur présence et leurs efforts, ne font pas partie de ce voyage qui vous pousse, vous et votre famille, dans la profondeur de la nuit. Vous n'y pensez pas, vous ne pouvez pas. Vous êtes le prolongement de cette nuit. Ces 20 combats vous accaparent, vous en êtes captifs. Vous êtes rivés à ceux qui traversent aussi l'expérience, les malades, leurs familles, les soignants. Chaque nouvelle victime frappée de ce mal opiniâtre réveille la douleur insurmontable que vous portez. S'il y a bien une chose dans la vie que je ne voulais pas envisager, parce qu'on était très très proches et que c'était pour moi la personne la plus importante au monde.
Claire Fercac, écrivaine.
Je ne pouvais pas envisager de perdre ma mère, ce qui est complètement stupide, on est d'accord, et complètement illusoire, puisque c'est quand même normalement dans l'ordre des choses, mais c'est quelque chose que je disais souvent à une de mes amies. C'était, je ne peux pas l'envisager et me le figurer parce que on était extrêmement proches, on s'appelait plusieurs fois par jour, on se voyait tout le temps. Et donc, après, vous êtes obligé d'apprendre à créer un nouveau quotidien. C'est comme une remise à zéro, de créer de nouvelles marques, un nouvel emploi du temps. Et clairement, au départ, vous avez l'impression que ça ne va pas être possible.
On est le 23 février 2022. Il est 7h30 du matin. Pour une fois, je ne suis pas allé faire des visites à domicile. Je m'en vais passer un examen pour un doute que j'ai dans ma tête, de me dire que j'ai des douleurs inexpliquées et que ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ça aussi, ça peut être quelque chose de grave. Donc j'arrive à l'hôpital, il pleut, j'arrive au 5e étage, service des examens pour regarder les muscles, ce qu'on appelle l'électromyogramme, et là, je tombe sur une femme, elle me met toutes les électrodes, elle ne me dit rien. Moi je regarde les petites courbes qui montent, qui descendent, qui sont souvent plates, et puis voilà. Elle m'en met sur la tête, le visage, partout, et puis au bout d'un moment, elle pousse la table d'examen et elle se lève devant moi, elle me dit ça me gêne vraiment de découvrir le docteur Meynier pour lui annoncer ce que je vais lui annoncer, vous avez une sclérose latérale amyotrophique appelée vulgairement la maladie de Charcot. Elle me prend dans ses bras, je ne pleure pas, je la regarde, je ne sais pas ce qui est un chaos de boxeur, poum, j'ai pris ça dans la tête et je ne sais plus où j'habite. Je lui dis ben merci beaucoup, au revoir madame, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle me dit oh vous inquiétez pas, on vous contactera. Je redescends par l'ascenseur, je vais sur le parking de la voiture, et là je monte dans la bagnole, et il n'y a qu'une chose qui m'obsède, c'est de me dire « Dépêche-toi de rentrer, t'as ton premier rendez-vous à 8h ». Je fonce, j'arrive à mon cabinet, la salle d'attente est noire de monde. Quand je dis noire de monde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place assise, je passe, il y a Gilles. Il est là et il me dit « J'ai pas oublié, c'est ton anniversaire », et il me donne un petit ballon de rubis en plastique. Et moi je lui dis « Tiens, j'ai deux cadeaux à te donner. Premièrement, j'ai la maladie de Charcot, et deuxièmement, c'est toi que j'ai choisi le jour où je te ferai signe pour que tu m'envoies dans les étoiles. » J'ai dit cette phrase-là. Et là, je me lève, il me prend dans ses bras, il pleure, moi je pleure. On pleure tous les deux. Toujours est-il que j'ai fini ma journée après avoir fait mon travail comme il fallait. Je suis rentré chez moi, je vivais seul. C'était mon anniversaire, donc mon fils m'avait dit « Papa, viens à la maison, ce soir on fête ton anniversaire ». Et ce jour-là, lui qui est pas démonstratif d'habitude, il me prépare un anniversaire comme jamais il m'avait préparé. Et il ne sait rien, bien sûr. Et moi, je me force à rire, je me force à lui raconter des histoires drôles, même en vous le disant, vous voyez, je suis ému, je suis bouleversé, et je veux pas lui montrer. Après, je suis re-rentré chez moi le soir. Bon, déjà que j'ai pas l'habitude de bien dormir, mais ce jour-là, j'ai vraiment mal dormi. Tout est passé en revue. Tout est passé. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je le dise? Est-ce qu'il faut que je le dise pas? Pendant 3 mois, j'étais suicidaire. Mais dans un suicide de long et progressif, on va dire, comme ils disent à la mode aujourd'hui, je faisais n'importe quoi. Je me buvais du whisky le soir, je fumais des pétards, je ne voyais personne, je répondais à personne. Personne. Pas une personne. J'avais fermé ma porte à clé, j'avais garé ma voiture plus loin et j'étais caché. Au bout d'un moment, au bout de 3 mois, je vous résume vite, au bout de 3 mois, Gilles n'arrêtait pas de m'appeler. Je lui répondais, je suis occupé, je te rappelle, mais je ne faisais pas. Il est venu à la maison, il me dit, maintenant tu vas arrêter tes conneries là. Tu vas peut-être mourir plus vite que prévu, mais honnêtement, tu ne vivais plus. En burn-out permanent, en travaillant 15 heures par jour, en fumant 3 paquets de cigarettes par jour, tu étais en train de mourir, et tu allais mourir d'un infarct ou d'un AVC bien avant les 3 ans qu'on te promet, parce qu'on m'a dit que ma vie durerait 3 ans. Et donc voilà. J'ai commencé à réfléchir, à me dire qu'il avait peut-être pas tort, qu'il me restait encore quelques temps à vivre, il faut que j'en profite.
Quand tu étouffes, ça ne tourbillonne guère sur la page, mais tu as tort. À plus tard, l'asphyxie. À demain, la gueule ouverte, le noyé, l'englouti. Allée des héros débiles, on trouve déjà quelques centimètres cubes d'air définitivement sortis de tes poumons, mais tu te dois d'en ignorer les futurs voyages. Puisque toi, tu écris, nom de Dieu, tu écris, tu en noircis des continents entiers en dépit de leurs mélancoliques dérives au travers des océans qui clabaudent fermes depuis qu'ils ont perdu le nord, égaré le Gulf Stream, les pulsions, les chimères, et tu chipoterais. Et tu n'écrirais pas et tu démissionnerais pour une vague histoire d'oxygène manquant. Mais enfin, tu es là pour écrire, alors écris. Vas-y, écris puisqu'on te le dit, puisqu'on te le suggère, puisqu'on te l'ordonne, presque afin de te faire oublier, reprendre souffle, aller moins mal. Et tu écris et tu ne t'aperçois pas que tu ne respires décidément plus. Et si tu écris alors que tout en toi s'y refuse, c'est bien la preuve que... La preuve, dis-je, que je suis mort. Mais que par gentillesse, on fait tout ce qu'il est possible de faire pour ne pas que je m'en aperçoive. Merci. Merci. Merci.
L'antagonie, Serge Sautreau.
La nuit, l'ennemi porte un nom. Glioblastome. Une sonorité généreuse, une rondeur presque amusante selon la manière, articulation, vitesse dont vous le dites. Glioblastome. Vous prononcez, articulez plusieurs fois le mot, comme si la répétition pouvait l'épuiser. Le glioblastome reste rare. Sa rareté n'en fait pas moins une atrocité. Son nom est altéré, bavard de symptômes avilissants, douloureux et mortifères.
Ce qui est nommé reste en vie. Claire Fercac.
Le titre, l'idée, je l'ai eue en lisant le livre Contre la mort d'Elias Canetti. Parce qu'il y a une phrase qui dit ça. Ce qui est nommé reste en vie. Nommer les choses, c'est effectivement les garder vivantes. Et je n'ai pas décidé d'écrire le livre tout de suite. Il a d'abord fallu que je me remette un peu de cette expérience. J'ai pris beaucoup de notes durant le temps de l'accompagnement de sa maladie, une tumeur au cerveau, sans me dire que ce serait pour écrire un livre, plutôt pour essayer de comprendre, parce que finalement le langage médical, il n'est pas si simple que ça à suivre, et les traitements eux-mêmes qu'il a été d'emblée, on le savait, la tumeur étant incurable, plutôt des traitements pour ralentir l'avancée de la maladie que pour guérir la maladie. Tout ça est assez complexe. Donc, au début, je prenais beaucoup de notes pour cette raison-là. Et ensuite, pour essayer de me souvenir de tout ce qui se passait dans cette chambre et qui était presque par moments poétique, parce que c'est une maladie, ou en tout cas dans le cas de ma mère, parce que tout le monde n'a pas les mêmes symptômes. Mais elle, donc, elle avait ce cerveau qui s'enfuit, qui oubliait des choses, mais qui aussi avait des hallucinations et qui donc créait des choses. Et par moments, j'arrivais dans sa chambre le matin et elle me disait « Cette nuit, j'ai escaladé le Mont Blanc, c'est incroyable dans mon état. » Et donc elle avait vraiment l'impression d'avoir vécu ces choses. Donc j'essayais de les noter parce que parfois, c'était vraiment complètement incroyable, surprenant et aussi assez beau en réalité. Et donc effectivement, je suis dans la chambre avec elle et elle me dit « Bon, et comment ils vont, mes petits-enfants ?» Donc, qui s'appellent Strogus et Papor. Donc, c'est quand même des noms assez étranges. Sachant qu'elle n'avait pas de petits-enfants, puisque je n'ai pas d'enfants. Et moi, je lui dis, ils vont bien. Oui, oui, je te les ramènerai. Toujours dans ce suivi de ne pas contredire sa pensée pour ne pas la stresser, pour ne pas la désarmer face à ce qu'elle est en train de vivre. Et donc, quand elle pouvait nous demander des choses un peu insensées, comme par exemple un jour nous dire « va me chercher un commissariat universel », ce qui n'existe pas et ne veut rien dire, on savait gérer. Et donc, on disait « oui, oui, on y va ». Et puis, on sortait. Et puis, bon, on revenait sans. Entre-temps, elle avait oublié. Mais c'est tellement romanesque que par un moment, je n'ai même pas eu à reformuler. Donc c'est là que je me suis dit que ce que je devais faire, c'était non pas un livre sur elle. Alors le livre lui est dédié et il n'y a que moi ou en tout cas les gens qui étaient dans la chambre avec nous qui peuvent vraiment savoir les moments qui lui sont dédiés. Mais le reste, j'ai décidé d'en faire un livre pluriel sur cette expérience qui est en fait une expérience très banale et très commune. C'est-à-dire que la mort d'un proche, ça nous arrive à tous. La mort tout court, ça va tous nous tomber dessus un jour. Et à la fois, la singularité qu'on ressent chacun quand on vit ce moment.
Je reprends la suite du fil. Mon autre fils, après leur avoir annoncé, et ça c'était quand même très dur, me dit « Papa, on va aller au Pays Basque, il n'y a que là où tu te sens bien ». J'ai commencé à vivre, vraiment. Le jour où j'étais condamné, j'ai commencé à vivre. Donc j'ai écrit, je me suis fait des amis. C'est plus que des amis, c'est la famille aujourd'hui. C'est la famille basque. On m'invite, je mange des bons petits repas en famille, au coin de la cheminée, avec des bérets qui n'enlèvent jamais du matin au soir. Là, je m'aperçois de la vraie nature des choses. Je me dis, aujourd'hui, j'ai éliminé tout le superficiel. Je me contente de l'essentiel. Et après, j'ai commencé un combat. Mon combat, ça a été de me dire, il faut essayer au moins de légiférer sur cette fin de vie. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tuer quelqu'un, même s'il est condamné. On n'a pas le droit. On va l'envoyer en Suisse. Allez-y en Suisse, avec 8000 balles, vous pouvez y aller. L'hypocrisie des gens est monstrueuse. On vous dit en France, non, on ne peut pas, mais allez-y. Allez en Suisse, c'est super bien. Allez en Belgique, allez au Canada. Et je me dis, mais pourquoi on peut pas faire ça en France? Moi, aujourd'hui, j'ai envie de changer cette loi sur la fin de vie. Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin avec mes cannes, et Dieu sait si je marche mal. J'ai bougé à droite, à gauche. J'ai rencontré François Hollande. Après, je suis allé rencontrer un député, Olivier Falorni, qui se bat depuis 10 ans pour essayer de faire avancer la loi. Toute ma vie, j'ai essayé d'être médecin pour essayer de soulager les autres. Maintenant, le seul but du reste de ma vie, c'est de soulager la mort des autres quand ils sont condamnés.
Atteinte de démence au dernier stade de la maladie, à 94 ans, elle est presque totalement mutique et incapable de s'alimenter. Elle est traitée pour des douleurs extrêmes dues au raidissement de tout son corps et par un neuroleptique pour calmer l'anxiété qu'elle exprime parfois, en appelant ses parents par exemple. Quand elle donne des signes de souffrance physique, le médecin appelé à son chevet diagnostique une occlusion intestinale liée à une hernie étranglée et ne nous offre d'autre choix que l'hospitalisation en vue d'une opération. Nous évoquons alors, pour la première fois, la possibilité d'arrêter les soins et de soulager notre mère, autrement dit la possibilité d'une sédation profonde. Le médecin est catégorique, il n'en est pas question. Le pronostic vital n'étant pas engagé, elle n'entre pas dans le cadre de la loi. L'intervention chirurgicale, vu son état avancé dans la phase terminale de la maladie, est sans espoir de guérison. Mais face à la menace annoncée par le médecin d'une mort dans d'atroces souffrances si nous nous opposions à l'hospitalisation, nous acceptons et elle est admise dans un service de chirurgie viscérale. 26 octobre 2016. Hospitalisation. On nous annonce d'abord une intervention chirurgicale sous rachianesthésie, car son état ne permet pas d'anesthésie générale. Le lendemain, nous apprenons que le chirurgien a renoncé à l'opération, mais que le problème de l'occlusion serait résolu par voie naturelle. Nous ne sommes pas consultés sur ce choix. Elle subit donc pendant 7 jours des lavements et laxatifs et une intervention dite de réduction manuelle de la hernie. À sa sortie, et sur notre insistance à rencontrer un médecin, nous sommes reçus, mais n'apprenons rien sur les suites de la prise en charge dans le service. Le chirurgien a fait son travail. Nous repartons très inquiets. Cette inquiétude s'accroît fortement après quelques recherches sur Internet, pour pallier l'absence d'informations de l'hôpital. Les lectures ne nous laissent aucun espoir d'amélioration.
Journal d'une agonie, Monique Ladsous.
Vous, parents, amis, amants, futurs endeuillés, déambulez dans les couloirs. Vous vous croisez, vous vous échangez quelques mots, ou vous vous ignorez. Tout dépend de l'état dans lequel se trouve votre patient à cet instant et de votre réaction à cet état, votre degré d'acceptation. Malgré la singularité de votre relation au mourant, dans cette expérience collective, commune, de la mort, éclot une connivence. Toute perte est unique, mais c'est chaque fois la fin d'un monde.
Novembre 2016. Retour à domicile. Elle rentre chez elle dans un état semi-comateux, épuisée par la semaine de traitement et le jeûne prolongé. Elle a encore quelques courtes périodes d'éveil dans la journée, où elle est levée et mise au fauteuil. Elle est nourrie à la cuillère, plusieurs fois, pendant les premiers jours qui suivent son retour, mais toujours de faibles apports liquides. Au bout de 3 jours, elle ne quitte plus le lit. Et le médecin est rappelé. 4 novembre 2016. Première prescription de morphine. Nous envisageons une admission dans un service de soins palliatifs pour lui assurer une fin de vie sans souffrance, mais nous apprenons que les soins palliatifs sont réservés aux malades soignés à l'hôpital. Nous rappelons le médecin et devant notre insistance, cette fois pour un traitement qui la mettrait dans un état de sommeil complet, il ajoute au traitement relaxant et anxiolytique des patchs de morphine à très faible dose, 25 microgrammes.
28 octobre, Antoine, ou Antion, au Pays Basque, atteint de la maladie de Charcot depuis le 23 février 2022. Je vis dans un petit village qui est merveilleux, qui s'appelle Baïgori. Je pense à, évidemment, les nuits sont dures, car je pense à plein de choses. Et je me dis quand est-ce que je vais être dépendant, quand est-ce que je vais être ça. Mais pour l'instant, je profite de l'instant présent. Hic et Nouk. Je me posais ce matin la question quand je me suis réveillé, il était 5 heures, parce que je dors très mal, et je me disais, si je me posais la question, est-ce que c'était mieux avant? Alors sur différents points. Alors ma vie professionnelle, oui c'était mieux avant, parce qu'aujourd'hui je travaille plus, j'ai l'impression d'être un peu inutile à la société, moi qui ai voulu toujours soigner et faire du bien autour de moi. Donc ma vie professionnelle, oui c'était mieux avant. Est-ce que, dans ma tête, j'étais mieux avant? Eh ben, paradoxalement, non. Avant, en fait, je n'avais pas le temps de réfléchir, pas le temps de vivre, pas le temps de profiter de la vie. Je faisais travailler, au détriment quelquefois de ma santé, au détriment sûrement de ma famille. Donc en fait, il faut commencer par des petites choses et mettre progressivement. C'est ce que je fais tous les jours, ce que je ne faisais pas avant. Progressivement, je remplis mon seau avec un petit sourire, une petite soupe au potiron le soir. Un andouille de neurologue m'a dit un jour, un charcot qui maigrit est un charcot pourri. Moi, j'ai pas envie de pourrir. J'ai envie de vivre et ça ne veut pas dire que je pense pas à la fin. De toute manière, on meurt tous un jour. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est pour l'instant, c'est profiter de la vie. Ensuite, est-ce que c'était mieux avant au point de vue affectif? C'est là le problème. Évidemment que c'était mieux avant, parce que je pouvais séduire. Aujourd'hui, je m'interdis de séduire. Je n'ai pas envie d'amener dans ma vie, dans ma galère, quelqu'un un jour. Ça va être une catastrophe, parce que dans un an, ou deux ans, ou trois ans, ou je ne sais pas combien de temps, si elle m'aime et qu'elle partage ma vie, il faudra qu'elle soit mon assistante, mon aidant familial. Et j'ai pas envie d'amener un aidant familial. Donc voilà, est-ce que c'était mieux avant avec des amis? Des amis, j'en avais beaucoup, que je croyais. Mais aujourd'hui, quand on est dans la merde, les amis, quelquefois, ils sont beaucoup plus rares. Et on s'aperçoit que les nouveaux amis qu'on connaît depuis pas longtemps, ils sont quand même très présents. Et ils ont un cœur que peut-être d'autres n'avaient pas. C'est sûr qu'avant, les gens étaient amis avec moi parce que je donnais beaucoup et que je rendais plein de services. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si on m'aime, c'est pour moi. Alors, est-ce que c'était mieux avant avec mes enfants? Non, c'était pas mieux avant. C'est mieux maintenant. Mes enfants, ils sont là, ils sont présents. On s'appelle tous les jours, on se fait des visios tous les jours, ils viennent me voir. Et surtout, je sais qu'ils sont là et il n'y a pas un soir où ils ne m'envoient pas un petit cœur ou un papa, je t'aime. Et ça, c'est quand même la meilleure des choses.
9 novembre 2016, deuxième prescription. Quelques jours encore plus tard, et une semaine après sa sortie de l'hôpital, son état continue de s'aggraver, et elle donne des signes d'inconfort et de souffrance. Elle évoque en particulier, une fois encore, un père qui viendrait la chercher. Le médecin est plutôt rassurant. « Elle est en fin de vie, dit-il. Elle ne souffre pas, elle s'éteint lentement, comme une bougie. » Nous lui renouvelons notre demande de mise en sédation pour lui éviter toute souffrance. Nous essuyons un nouveau refus. Cette fois, il passe la dose de morphine de 25 à 50 microgrammes. 12 novembre 2016, troisième prescription. Elle ne peut plus rien avaler. La veille, une auxiliaire la nourrit à l'aide d'une pipette. Le médecin, rappelé une fois de plus, prescrit des injections de morphine un peu plus fortes. 20 mg toutes les 4 heures, plus les patchs. Elle semble avoir sombré complètement dans le coma. Ses yeux presque clos sont voilés. Son corps est inerte. Et la bouche grande ouverte, elle semble chercher l'air, mais respire régulièrement. Elle ne réagit plus aux manipulations des aides-soignantes. Elle montre des signes de risque d'escarre, et maintenant bordée de toutes parts pour éviter les points d'appui. 15 novembre 2016, quatrième prescription. Nous insistons pour obtenir un vrai sédatif. Il double les doses de morphine qui passent à 40 mg toutes les 4 heures et ajoute un psychotrope, du Largactyl. Cela fait maintenant 15 jours qu'elle est rentrée de l'hôpital et que sa mort est annoncée par déshydratation et à petit feu. Son cœur résiste. Le médecin répète qu'elle ne peut pas souffrir. Nous voulons le croire.
C'est joli chez vous.
Ah oui, voilà, vous entrez dans mon petit domaine, dans ce qui me reste. Entrez.
Voilà. Redis-nous quel âge tu as.
102 ans bientôt.
Et voilà, le 27 mars.
Oui.
Et c'est quoi ton quotidien pour
alors,
que tu...
Mon quotidien, ben je me lève. Alors mon quotidien... Ben je...
La journée de Louise.
Eh ben voilà, le médecin m'a dit que... Il fallait quand même que je me surveille parce que je suis une ancienne droguée. Donc, non seulement il faut bannir tous les somnifères et tout le chantier, mais il faut aussi être sérieuse dans sa façon de vivre. Bien. Et que par conséquent, il y a des choses qui se font plus quand on est fragile. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, reprendre des somnifères. Par exemple, boire trop d'alcool. Par exemple, un petit peu, mais pas trop. Il faut avoir une discipline. Et puis moi, ma discipline, il faut que je trouve quelque chose qui me convienne.
Alors ?
Ben, c'est la peinture et puis la méditation. Après, ben, j'ai eu, comme tout le monde, des creux terribles.
Les traversées du désert, oui.
Eh bien, moi, je me suis remise à coup de volonté, carrément. Mmh. Je vais me promener, mais ensuite, c'est la peinture jusqu'à 6 heures. Comme si je devais...
Oui,
obligatoire.
Oui.
Tu t'obliges, point. Si vous voyez ce que j'ai fait hier. Oh, l'horreur. Alors, et j'ai eu du mal à me remettre à peindre, parce que c'est bien plus facile de se mettre là.
Et de rêvasser.
Il y a des... Ah, je peux vous dire, ça bouge, hein. Depuis 8 jours, tout est changé, là.
C'est vrai. On est devant la fenêtre, là.
J'ai
oui.
jamais si bien observé que maintenant.
Ah bon ?
Quand on a des grands paysages, quand on n'a plus rien que ça, eh ben je vous préviens que c'est un voyage de regarder ça.
De regarder le petit jardin de l'établissement.
À quoi vous pouvez attribuer la longévité de la vie ?
Eh ben j'en sais rien. Parce que moi, depuis que j'ai 40 ans, je me dis, oh là là, si seulement je pouvais mourir. Et puis je suis là. Si quand même. Parce que comme j'ai eu des accidents, j'ai toujours été suivie quand même. Physiquement, je suis quand même pas un as, mais je suis pas un as. J'ai traîné ma colonne vertébrale qui m'a fait mal toute ma vie. Et puis la colonne, c'est la rencontre entre le psychisme et le mental et le physique. Alors ça veut dire si on est en bagarre là-dedans. Et là, j'étais en bagarre toute ma vie dans mon dos déjà. Mmh. Donc j'ai été suivie par des bons médecins.
T'as quand même une pulsion de vie incroyable. Tu dis que t'as toujours voulu mourir depuis que t'as 40 ans, mais...
Parce que j'en ai ras-le-bol, oui.
Alors, j'ai rencontré Louise parce que dans l'établissement, l'EHPAD où elle réside, était installée depuis peu une tante à moi, une tante Claire. Et ces deux-là, pendant le Covid, avaient fraternisé, sororisé, on pourrait dire... Parce que ma tante est une rebelle qui est addict au tabac et elle s'était démerdée pour pouvoir échapper aux autorités par elle fuguait toutes les deux pour aller dans la cour fumer et papoter. Louise ne fumait pas mais elle avait soutenu ma tante dans la clandestinité. Et moi, c'est le rire de cette femme qui m'a enchantée. Quelque chose de perlé, une cascade de joie, des petites notes de bonheur qui ricochent comme ça. C'est son rire qui m'a frappée en premier. Et puis, une puissance, une vitalité exceptionnelle qui contaminait tout le monde à son contact. Les autres résidents, même les plus éteints, les plus grabataires, mais ils avaient un sursaut, quoi. Et j'ai été touchée par ça. Par la suite, il s'est trouvé que ma tante a fini sa vie relativement seule et c'est Louise qui a, dans son assistance et son dévouement, tenu la main jusqu'à la fin à ma tante Claire et elle vit et accompagner les morts, ça fait partie de la vie et elle a 102 ans et elle vit avec bonheur, avec élégance et sans se plaindre et en donnant le meilleur d'elle-même à tous les autres petits vieux qui l'accompagnent et qui sont souvent beaucoup plus vieux qu'elle, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'elle a 14 ans et demi, Louise, mais bon. 9 juillet 2021. Bonjour, chère Louise. C'est Sophie Doll, la nièce de Claire. Je pense que vous vous souvenez du très bel échange que nous avons eu dans votre chambre si accueillante. Je me souviens de vos tableaux, de Simone Veil, et après le choc qu'avait provoqué dans mon âme la vision délabrée de ma tante, cette pause avec vous avait été un havre. Je tenais à vous en remercier. Quand je reviendrai à Grès dans le courant juillet, je ne manquerai pas de venir vous embrasser. D'ici là, portez-vous bien et recevez toutes mes affectueuses salutations. Sophie.
12 septembre 21. Grand merci pour votre lettre et les photos de Claire. Vous me faites connaître Claire, votre Claire en pleine vie. Et moi, je connais la même Claire, mais dans son automne et sur son départ. Sincèrement, je serais bien partie avec elle. Elle me manque. Mais voilà, elle était mûre et moi, pas encore assez. Mon heure n'est pas venue. Comme pour vous, Sophie, la fin de sa longue agonie a été un soulagement. Claire était certainement une femme forte, résistante, qui aimait la vie et avant tout les siens. Combien de fois je l'ai vue essayer de sortir de son fauteuil roulant en me suppliant de l'aider à s'en aller, on devine bien où. Les soignantes ont admiré son courage et j'ai vu combien elles l'ont assisté avec affection et douceur. Sophie, merci de me parler de vous, de votre départ en Sicile, du grand lavoir qui marche. Pas étonnant, j'ai lu et apprécié un récit puissant, très beau, et surtout le pardon sublime. S'y joint une photo d'une encre de Chine, c'est ainsi que j'ai vu Noël cette année et que je traduis une vie dans la grisaille. Mais avec la certitude que ce point lumineux annonce notre prochaine transfiguration. Moi aussi, je vous embrasse tendrement en attendant un joyeux revoir, si possible.
Au début, je l'ai prise à la maison, tant qu'elle était encore valide. Mais après, elle est restée très très longtemps à l'hôpital et j'allais la voir deux fois par jour. Et j'y restais tout le week-end. Enfin, je voulais passer le plus de temps possible avec elle et c'était ma façon de pouvoir vivre ça. Et je sais que même parmi mes amis, ça pouvait créer une sorte d'incompréhension. Mais encore, tu y vas et tu ne sors plus et on ne te voit plus. Vous remontez la chambre en courant, vous voulez embrasser votre proche tout de suite. Vous ne voulez pas que ça finisse. Vous savez que vous vous retrouverez bientôt dans la même situation que l'homme qui criait de chagrin devant le cabanon. Vous ne pouvez pas le croire. C'est inadmissible. Cette information, cette certitude, vous ne pouvez pas l'intégrer, l'accepter. Vous y préparez, vous n'y arrivez pas. Dans la fraîcheur de la nuit, vous lui caressez longuement le bras. Vous pensez qu'elle va vous envoyer promener parce qu'elle est épuisée et que la journée a été rude. Ses nerfs étaient en pelote. Mais non. Au contraire. Elle sourit, les yeux clos. Elle vous serre la main si fort, pendant des heures, que vous sentez des fourmis engourdir vos doigts. Vous faites maintenant exactement le même poids. Vous maigrissez simultanément. Vous passez des heures à la contempler. Vous avez les mêmes pieds, formes et pointures analogues, deuxième orteil chevauchant légèrement le troisième, le centrus. Vous avez aussi les mêmes mains, finesse des doigts et de la peau, ongles peints de rouge. Vos poignets suivent une courbure semblable. Vous les observez et ce sont vos mains que vous voyez. Vous la regardez si longtemps que votre vue se trouble, les images se superposent. Dans ce lit, ce pourrait être vous. Après tout, pourquoi pas? Parfois, vous aimeriez prendre sa place, sa maladie, et la voir non pas guérie, mais vierge de toute pathologie. Supporterait-elle de vous perdre? Sûrement pas. Alors, vous êtes ensemble dans cette impasse. Vous n'aviez jamais vraiment réussi à envisager sa disparition. Une seule fois, il vous était venu à l'esprit qu'elle mourrait, comme tout le monde, mais cette pensée avait été immédiatement rejetée dans l'impossible, l'irréel, l'insupportable. Je ne pouvais pas l'imaginer, mais la réalité est bien plus rude que l'imaginaire le plus pessimiste. Maintenant, vous le savez.
« 19 novembre 2016. Les aides-soignantes nous alertent ce matin. Elles ont observé des réactions, comme un réflexe de succion quand elles donnaient un soin de bouche. plus des battements de paupières et des gémissements quand elles l'ont changé de position. Cela réveille chez nous une hantise, qu'elles perçoivent encore quelque chose et puissent souffrir. Entre ceux qui prétendent savoir qu'elle ne peut plus rien ressentir et les autres qui affirment qu'elle entend tout et qu'il faut lui parler, nous voulons croire qu'elle ne ressent plus rien. Nous attendons sa mort. Et c'est long.
Une carte postale du 9 mars 2022. Chère Louise, l'avantage des tournées théâtrales, c'est qu'on visite plein de villes et de belles églises. Alors recevez mes tendres pensées, hier à Beauvais, ce soir à Angoulême. J'espère que vous allez bien, ma chère Louise. Amitié, Sophie Doll.
Ainsi parlait Jules, est sur ma table. Je le vois, je pense à vous. Mais 100 ans, c'est lourd, et vous voudrez bien m'excuser de tarder à vous dire merci, de me faire partager quelque chose d'aussi beau et authentique. Je l'ai dévoré d'un trait et le relis, tant il me parle, tellement de profondeur et de vérité. Vos bavardages, je cite entre parenthèses, alimenteront les futurs nôtres. Si possible, ce serait pour moi un vrai bonheur. C'est un grand art et j'aimerais vraiment, avec vous, partager ces émotions parce qu'il y a tellement de choses là-dedans. Pour Pâques, je vous souhaite une plénitude de joie et je vous embrasse de tout mon cœur, Louise.
On est le 29 octobre, 5h31. Oui, je suis debout de bonne heure. Hier, dans la journée, j'étais fatigué. J'avais la flemme d'aller acheter à manger et je me suis mangé ce qui restait dans le frigidaire. Pas grand-chose. Voilà aussi pourquoi c'est bizarre cette maladie. Parce qu'on devient flemmard. Je n'ai pas envie de faire des choses. Je n'ai envie de faire que de l'utilitaire. C'est-à-dire être avec des gens dans un café. Parler. Parler de la fin de vie, parler de tout ça, c'est pas triste. C'est parce que j'ai envie de me dire qu'aujourd'hui, ça va aller. Aujourd'hui, c'est une journée particulière où, normalement, un de mes fils doit venir me dire bonjour. Donc je suis tout content, je dis normalement, parce qu'avec les enfants, je ne sais jamais.
Le 2 octobre 2023. Ma chère Louise, voici une vue de mon village d'adoption. Jusqu'en décembre, j'habite à Jaligny-sur-Bèbre. J'ai commencé mon travail avec les élèves des collèges alentours pour un projet théâtral autour de leur quotidien de jeunes ruraux. C'est passionnant. La campagne est très belle et généreuse. Hier, j'ai ramassé 3 kilos de cèpes bourbonnais. Je t'espère au mieux dans ce magnifique été indien. Je t'embrasse très tendrement, Sophie.
Quel bonheur! Des bonnes nouvelles de Sophie. Tu es dans une belle région et tu sembles contente de tes activités dans ton village d'adoption. Je t'imagine très bien dans ton élément, le théâtre, avec des adolescents. Peut-être vas-tu, pour les fêtes et les vacances de Toussaint, reprendre contact avec tes proches. Si tu passes dans la région, je serai heureuse de te recevoir. Simplement, il faudrait juste me prévenir quelques jours avant, voilà. Tu serais mon rayon de soleil au moche noir, le cafard, ce jour-là. Vraiment de tout cœur. Oh ben c'est vrai, j'ai mis vraiment.
Bah écoute, je le crois.
Sur ma vie en morceaux, quand trop tôt viendra l'heure, le multiple faisceau, le dernier projecteur. Je penserai sans doute à ces quelques lumières qu'on croise sur sa route, qui l'anime et l'éclaire. Le lustre de cristal, la lampe d'Aladin, une lanterne d'étoile, ton sourire ce matin. Or, quand vacillera cette flamme qui est moi, cette loupiote nue, petit feu de joie à l'ombre des douleurs et pour les faire taire, je veux pouvoir moi-même éteindre la lumière.
Aujourd'hui, on est le 30. Alors, l'état d'un charcotique heureux. Hier soir, gros bonheur, parce que mon fils était venu, donc petit repas, petit apéro, voilà, plaisir, câlin. Il a 36 ans, c'est comme s'il venait de naître, j'ai besoin de lui, et lui, il a besoin de moi, donc c'était bien. Et puis après, contrairement à d'habitude, je me suis endormi facilement. Le fait de savoir qu'il était dans la même maison que moi me rassurait. J'avais pas cette angoisse quotidienne que j'ai dès que la nuit tombe sur les collines. Et depuis, il est parti, mon fils. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans. J'ai mal. J'ai voulu aller prendre le café. J'étais épuisé. Je suis même pas allé. Je suis rentré me rallonger chez moi et je me suis pris là. Bon, après, je sais que c'est tout le temps comme ça. Des hauts, des bas. Le moral est plus dur que le physique. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, je dis que je suis gâté parce que je suis toujours là et que j'ai passé 24 heures avec mon fils qui m'a rendu heureux et j'en passerai d'autres. Fin de ma petite rubrique du jour.
Dans ma poitrine, il y a 3 hommes. Un qui ne voudrait pas mourir maintenant, mais plus tard, plus loin, plus avant. Un autre, un aventurier, un fou, qui voudrait tout de suite, qui le désire en liberté. Si je l'écoute, il n'attend que ça depuis toujours. Et il trouve que ça traîne, que ça tarde. Il me conjure d'accélérer, d'abréger, d'asphyxier une bonne fois, qu'on passe à autre chose. Enfin la fin, s'exclamera-t-il en spécialiste, meurtri de n'avoir pu vérifier ses talents plus tôt. Son heure viendra, que veut-il d'autre? À quelle vitesse croit-il se vouer? Le plus souvent, je lui coupe la parole. Dans ma poitrine, un troisième veille à ne rien croire. Je ne sais au juste à quoi il sert. Son silence est inaltérable. 18 août 2008, 15h55.
Aujourd'hui, ce matin, je me sens quand même néanmoins en forme et je me dis que je vais essayer de passer une journée agréable. Ça va être essayer de se déplier, parce que je suis vraiment plié, retendre des fils à la marionnette que je suis un peu allongé, et ensuite, après, je vais essayer de bien faire ma kiné, bien manger. Hier soir, je suis allé prendre un verre dans un hôtel qui est à côté, où il y avait des gens que je ne connaissais pas et qui m'ont fait toute une théorie sur la fin de vie, sur la maladie, tout ça. Mais ils ne comprennent rien, en fait. C'est très gentil de leur part. Si je n'aurais envie que d'une chose, ça serait surtout qu'on me dise « Tiens, prends un Americano avec nous et puis on va rigoler et raconte-nous des histoires comme tu le faisais avant. » Parce que dès qu'on me voit, on ne pense pas forcément que je suis capable de raconter une histoire drôle. On me raconte surtout. Et comment vous envisagez l'euthanasie? Comment vous pensez faire matériellement? Voilà. Alors que les gens, je leur dis, mais purée, ça serait quand même plus simple de me parler. Comment vous envisagez le week-end, le dimanche, la côte de bœuf, les cèpes, vos enfants, une partie de rugby au stade de Nafarroa, essayer de chanter la chanson du Pays Basque? Non. On me demande, alors, ça va? Vous allez bien? Vous allez mieux? Purée, dès qu'on pose cette question, c'est pas bon. En tout cas, ce matin, je vais me déplier, je vais prendre mon café et je vais aller mieux. Demain, n'oublions pas, 1er novembre, la Toussaint, ce que je déteste au monde.
Il faut laisser partir le mourant. Oui. Dans le cours inéluctable des choses, mais en réalité, vous vous entêtez. Vous voulez que la médecine le maintienne en vie. Vous êtes du côté des vivants. Alors que l'individu s'éteint, vous vous affairez à préparer les obsèques. C'est là que l'ordre du temps commence à s'inverser pour vous. Perdre son sens, s'égarer. Les dernières semaines, les infirmières vous demandent l'autorisation de découper ses chemises de nuit dans le dos pour pouvoir les lui mettre plus facilement sans la faire trop souffrir. Dans le même temps, vous avez rendez-vous avec les pompes funèbres. On vous a conseillé de tout organiser avant son décès. Devant, il y a la mort, certaine, mais impénétrable. Derrière, l'addition d'un passé regretté et de mois de maladie insupportable. Et au milieu, vous, perdu dans un instant jamais prévisible. Vous avez le tournis. Vous sentez vos jambes fléchir quand on vous conseille aussi de préparer sa tenue, la dernière, d'aller la chercher, de la déposer dans le placard de sa chambre pour pouvoir l'habiller le moment venu. Il ne faudra pas trop attendre, quand le corps est froid, cela devient impossible. On vous laissera avec elle quelques minutes. Vous ne voudrez pas aider à l'habiller, même si c'est elle. On n'habille pas la mort. Mais on la maquille, ça bizarrement vous l'accepterez. Maquiller un défunt, vous adhérez à l'idée. Maquiller, faire disparaître. Vous voudrez surtout la rendre belle, reproduire ses gestes. Vous les connaissez. Vous aurez apporté ses produits de beauté préférés, vous la parfumerez, vous ne la croirez pas morte. Vous ne comprendrez pas ce qui vient d'arriver. Vous n'appréhendez pas la mort. Hier encore, il vous regardait, vous y êtes, il vous sourit et ferme les yeux. Son état empire, votre humeur et votre désespoir aussi. Vous pleurez presque constamment, tout vous agace. On vous avait averti que son état ne ferait qu'empirer, mais alors qu'il passe ce cap vers le pire, vous plongez aussi vers un accablement extrême. Vous le serrez, le caressez, lui faites des bisous, le prenez dans vos bras, vous guettez sa respiration. Parfois, elle semble s'arrêter, puis brusquement, un ronflement, une toux bizarre vous font sursauter. C'est la panique. Depuis hier, son cœur fait des pauses. Un chat miaule dans une publicité à la télévision. Elle ouvre inopinément les yeux et prononce « miaou » d'une façon adorable. Alors vous êtes heureux comme si elle revenait d'entre les morts. Un son, même animal, même imité, est un signe de vie. Il n'avait pas ouvert les yeux depuis 3 jours. Il mourra le lendemain. Mais c'est là que je vois que ça va, je vais mieux quand même depuis. Non, mais bon. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, et donc ça me ramène à des moments auxquels je ne pense plus ou très peu. Alors que les mois suivants et même l'année suivante, je pensais tout le temps à elle, malade. Et aujourd'hui, j'ai des souvenirs d'elle vivantes, et donc de meilleurs souvenirs.
Bonjour. Alors c'est très rigolo, je peux vous raconter, enfin rigolo, c'est pas rigolo, mais une anecdote, c'est-à-dire que le chauffeur taxi, quand je suis rentré de Paris, m'a déposé au terminal 2A, alors que je prenais l'avion au terminal 2G, ce qui fait qu'il a fallu que je marche, et il y avait énormément, il doit y avoir 3 kilomètres. Et donc je suis allé au centre handicapé en me disant, bon, il faut avouer, ça y est, tu es handicapé. Et quand je suis rentré dedans, j'ai fait un coup d'œil rapide et je suis reparti, alors je vais pas vous dire en courant parce que je peux pas courir, mais je suis reparti très vite. Rien que de voir la difficulté des gens à me parler pour me faire signe que le fauteuil roulant était là-bas, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Et quand j'ai vu des gens handicapés avec des fauteuils électriques, des perfusions, des trachéotomies, j'ai eu un miroir très désagréable. Je me suis projeté dans quelques années ou dans quelques temps et je me suis dit, voilà, ce qui m'attend, c'est qu'un jour, je pourrais soit plus prendre l'avion, soit alors être dans cette cage à lapin avec un nombre incroyable de personnes handicapées, mais très handicapées. Donc, j'ai marché pendant 2 kilomètres, 6 ou 7 ou 8, je sais pas. Et aujourd'hui, j'ai plus de jambes, plus du tout. Je suis épuisé, fatigué, mais voilà, donc c'est compliqué.
20 novembre 2016. Elle meurt dans la nuit après 26 jours d'agonie. Nous gardons, et nous garderons de cette fin de vie un goût amer de gâchis humain et l'impossibilité d'un dialogue avec les médecins. Eux ont fait leur travail. Du moins en ont-ils eu la conviction. Personne ne leur demandait de transgresser la loi. Mais auraient-ils pu l'appliquer? Notre mère, née en 1922, n'avait rédigé aucune directive anticipée. Elle ignorait même que cela puisse exister. Elle croyait naïvement qu'il lui suffirait d'arrêter tout traitement et que la mort viendrait. Une mort qu'elle attendait avec sérénité. Elle avait en revanche exprimé la volonté de ne pas être envoyée à l'hôpital, affirmant ainsi, avec ses mots, son refus d'intervention. Elle avait toute sa vie fait confiance aux médecins. Cette confiance a été trompée. Par nous trois, ses enfants, qui n'avons pas pu rendre à notre mère la confiance qu'elle avait en nous et qui n'avons pu l'aider à mourir. Par le médecin, guidé par ses convictions sur la fin de vie ou impuissant lui-même face à une loi aux contours discutables, mise en situation de non-assistance à personne en grande détresse. Par le chirurgien, qui a déroulé sans état d'âme un protocole dont il connaissait mieux que personne l'issue. Nous ne réclamions pas l'euthanasie. Pourtant le seul geste médical humain qui aurait pu soulager le calvaire dont nous avons été les spectateurs. Au moins notre mère aurait-elle pu bénéficier de la loi permettant une mise en sédation profonde, sous contrôle médical le 26 octobre, au lieu des traitements brutaux et vains qu'elle a subis. Nous l'ignorons encore. La loi, si imparfaite et mystificatrice qu'elle soit, n'est tout simplement pas appliquée. Et le droit des malades relève chez nous de la fiction. La loi continue de donner aux médecins, en dernière instance, et selon son intime conviction, un droit opposable aux souhaits des familles et du malade. Pire, elle renforce la défiance que nous avons envers lui. C'est le constat que nous faisons de l'agonie de notre mère. Combien de temps ces situations vont-elles encore durer ?
Encore un qui te parle comme s'il s'adressait à la plaque de l'interphone. Encore un qui t'inflige une médecine de marbre en blouse de science glaciaire. Encore un sûr de soi et de surcroît un mioche, tout dans les chiffres et rien dans l'œil. Voilà qui devrait décider de ma vie, de ce qu'il en reste. Je te salue, vieille ironie. 20 septembre 2008, 21h50, deux jours après consultation d'un quatrième pneumologue, à Clermont-Ferrand cette fois.
La date fatidique de mon anniversaire arrive et j'ai l'impression que le sable du sablier coule encore plus vite que d'habitude. Parce qu'on m'avait tellement fixé le chiffre de 3 ans en disant « ma charcot, ça dure 3 ans ». Et puis là, je ne sais pas, parce qu'il fait pas beau, parce qu'il pleut, parce que j'ai peut-être un coup de fatigue, un coup de morale. Voilà. En tout cas, sachez que il y a 22h20, l'arbre n'est pas tombé. Il a juste été un peu remué par la tempête. Mais demain, il remontera. Et puis, il y a plein de beaux jours qui vont venir. Et même si, sur le papier, il me reste 1 an, je vous promets que dans 20 ans, je serai toujours là.
Je me débrouille toute seule. Je suis des rats. Bon, il y en a des tas qu'il faut laver. Moi, ils m'ont lavé quand je m'étais cassé. Et ça, parce que je suis quand même cassé plusieurs choses. Mm-hmm. Parce que ça casse facilement.
Bah oui, c'était une brindille, oui.
Bah oui. Alors, dans ces cas-là, bah, ils me lavent. Alors, quand ils me lavent et puis que je suis dépendante...
Ça, t'aimais pas, hein, ouais.
Oh, tu sais, un détail. Tu sais ça, toi. Il y a quelques fois, on a résisté à une grosse chose, puis une piqûre d'épingle, et puis on monte au plafond. Bon, alors, il faut faire attention à ça quand même. Bah, ici, j'en ai eu des piqûres d'épingle. Oh là là. Et c'est curieux, parce que chaque fois que j'ai essayé de me défendre, eh ben, on m'a toujours donné raison.
Oh, excusez-moi, c'est le goûter, mademoiselle Moussard.
Alors, vous voulez quelque chose ?
Moi, j'ai envie de rien. Il y a un café qui me ferait plaisir,
oui,
éventuellement.
Mais ils ont du café.
Ah, formidable, ça je veux bien un café.
Et vous désirez quoi ?
Non, rien du tout, moi, ça, je suis très très bien comme ça. On sort de la table, ça va.
Il y a des activités, bon, aujourd'hui, il y a quelque chose là. Alors, comme j'y vais pas, on vient me chercher. Alors, madame Moussard, Alors, vous avez envie de venir, alors
c'est quoi, c'est atelier machin, atelier truc.
C'est infantilisant, non. C'est pour ça que j'y vais pas.
28 décembre 2023. Ma chère Louise, après ce long exil bourbonnais, conclu par le triomphe du spectacle réalisé avec ses collégiens si touchants, je déguste avec bonheur le repos de la trêve de Noël. Et comme très souvent, mes pensées vont vers toi, ma grande. Une nouvelle année s'annonce, la 102e du monde terrestre qui connaît le sourire de Louise Moussard. Je n'ai aucune nouvelle de mon cousin Manuel, le fils de Claire. Quel dommage. J'espère que tu as été bien entourée pour Noël. Je t'envoie toute ma tendresse et bientôt mon prochain roman peut-être. À bientôt, Sophie.
Ma chère Sophie, quel bonheur, ta lettre du nouvel an. Je me réjouis que ton exil se termine par un triomphe du spectacle réalisé avec les collégiens. Si touchant. Moi aussi, je pense souvent à toi et je devine ta joie de te retrouver chez toi avec les incertitudes et même les obligations d'une nouvelle année. Te voir de temps en temps est une vraie joie. Et maintenant, tu sais que nous pouvons, ici, partager un repas. C'est avec bonheur que je te vois venir. Avec toi, je partage les déceptions de n'avoir aucune nouvelle d'amis ou membres de ma famille. Cela m'arrive aussi. Nous vivons dans un monde étrange. Moi, ça c'est vrai. Il nous reste à trouver les bonnes choses de la vie et à ne pas les manquer quand elles se présentent. Tu parles aussi de ton prochain roman, Créé d'homme de la joie. Et moi, je pense à toi avec tendresse. Je me réjouis d'avance de ton prochain passage et je t'embrasse de tout cœur.
Merci à Antoine Meynier, Monique Ladsou, Claire Fercac, Sophie Dole, Pierre Ragu et Louise Moussard. Lecture, Anne de Peufeuillou, David et Ethan Mandino et Claire Fercac. Texte lu, Ce qui est nommé reste en vie de Claire Fercac, Épreuve exorcisme d'Henri Michaud, L'antagonie de Serge Sautreau et Le journal personnel d'une agonie de Monique Ladsou. Prise de son, Lucien Lefebvre et Pierre Henry. Mixage, Antoine Viossa. Chargée de programme, Marivana Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Des vivants jusqu'à la mort. Quatrième épisode, Une trace pour les vivants. Un documentaire d'Émilie Chaudet réalisé par Cécile Lafont. Retrouvez les pages web sur franceculture.fr et le podcast LSD sur l'appli Radio France.